La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire effacée du quartier maghrébin de Jérusalem, détruit dans la nuit du 10 au 11 juin 1967 sur ordre de l'armée israélienne victorieuse de la guerre des Six Jours. Un quartier fondé au XIIe siècle, situé au pied du mur des Lamentations et de l'esplanade des mosquées pour accueillir les pèlerins musulmans originaires du Maghreb. Littéralement rayé de la carte, le quartier n'a laissé aucune trace visible. Mais en partant à la recherche de ses derniers habitants, nous avons pu rencontrer des familles algériennes, tunisiennes ou marocaines, dont la mémoire révèle la vie quotidienne d'un quartier éradiqué dans le plus grand secret.
فهذول أربع شوارع وإحنا أولاد يعني كنا نلعب فيهم الحلقة بقولولها نطارد ورا بعض ورا بعض اللي بمسك الثاني بوقفه
Je me rappelle quand on était petit, le quartier maghrébin, c'est un quartier qui est en forme du carré. On avait quatre rues, on jouait ensemble, on courait l'un derrière l'autre. C'est lui qui attrape le premier, c'est lui qui a gagné. Je me rappelle aussi qu'il y avait, à part ces zaouias ici, il y avait trois zaouias. Et on allait tout le temps dans les zaouias pour voir les gens qui visitaient, aider les hommes plus âgés que nous, ramener la nourriture pour les familles qui nous envoyaient à gauche, à droite. C'était une vie simple, mais c'était mieux que maintenant.
Abou Mardi, dont le nom complet est Moussa Issa Ben Abdallah Ahmed Al-Moghrabi, se souvient du petit garçon qu'il était. Un gamin curieux de rencontrer les nouveaux arrivants des Zaouias, comprenait les maisons où étaient accueillis les pèlerins musulmans. Avec l'historien Vincent Lemire, directeur du Centre de Recherche Français de Jérusalem, nous sommes à notre tour accueillis par Abou Mardi dans l'ancienne Zaouia qu'il entretient religieusement avec sa femme. Nous sommes à Jérusalem-Est, tout au bord de l'actuelle esplanade du Mur, esplanade créée en lieu et place du quartier des Maghrébins.
اسمي الكامل هون في هاي البلاد عيسى عبد الله احمد المغربي المغربي هذه لقب اما العائله المير
mon nom ici c'est Issa Abdallah Ahmed El Moghrabi et ici en Palestine mais l'origine de notre famille le nom de notre famille au Maroc c'est المير
هلا في قصه عن البيت تبعي ننزل نشوفه
on va aller chez moi raconter l'histoire de ma maison
يلا تفضلوا
Abou Mardi, ce sont ses grands-parents qui sont arrivés donc à Jérusalem en 1907.
Vincent Lemire, directeur du Centre de Recherche Français à Jérusalem.
Ils sont arrivés à l'occasion d'un pèlerinage à la Mecque, et ça c'est très caractéristique. On a beaucoup de ces familles maghrébines installées à Jérusalem qui le sont en fait à l'occasion d'un pèlerinage au lieu saint, donc la Mecque, Hébron et Jérusalem, soit à l'aller, soit au retour. Donc c'est un quartier pieux, hein, c'est des familles pieuses par définition, parce que si elles ont fait le pèlerinage, c'est que voilà, elles sont relativement pieuses. C'est un quartier qui a pratiquement duré 8 siècles, puisqu'il est créé à la toute fin du XIIe siècle, juste après la reprise de Jérusalem par Saladin. Donc ça, c'est 1187. Et puis quelques années après, on a plusieurs témoignages, plusieurs signes convergents qui montrent que Saladin, en fait, cherche à repeupler Jérusalem. Et donc, il fait don de ce quartier aux populations d'origine maghrébine. Voilà, alors... Et puis, en fait, d'autres fondations pieuses vont venir s'agréger petit à petit à ces fondations originelles, mais toujours avec la même raison sociale, j'allais dire, toujours avec la même fonction, qui est d'accueillir les populations d'origine maghrébine. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont gardé des liens très forts avec leur pays d'origine ou avec leur région d'origine. Ils nous parlent très souvent de leurs cousins qui sont en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc. Et y compris dans les archives que j'ai pu consulter dans les années 50 ou 60, quand quelqu'un vient par exemple du Maghreb pour visiter le quartier, il repart avec quantité de lettres qu'on lui confie pour des cousins ou des frères et sœurs ou des oncles et tantes qui sont sur place, en Algérie en l'occurrence, pour les archives que j'ai pu consulter. Donc en fait, il y a des liens très forts. C'est une des premières surprises que j'ai eues, c'est que ce quartier maghrébin, c'est pas un vieux toponyme qui traîne depuis des siècles et qui est juste resté là c'est vraiment encore un quartier dans lequel vivent des Maghrébins jusqu'au milieu des années 1960. Et des gens qui se considèrent comme Maghrébins, qui ont des liens avec le Maghreb, qui ont des liens familiaux, pas seulement des liens fantasmés ou culturels ou culinaires ou je sais pas quoi, mais des liens familiaux, ils savent d'où ils viennent de Fès, ils viennent de Oran ou ils viennent de Tunis, et ils ont encore une fois des cousins, des oncles, des tantes, ils peuvent en parler. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, après la destruction, ils vont y retourner.
Croisant de multiples sources archivistiques, Vincent Lemire décrit la destruction du quartier des Maghrébins comme une opération politique programmée. Lorsque les Israéliens conquièrent Jérusalem en 1967, ils accèdent enfin au mur des Lamentations dont ils étaient privés depuis 1948. La destruction du quartier des Maghrébins permet alors d'accéder massivement aux lieux saints vénérés par les Juifs depuis la fin du XVe siècle comme le vestige du Second Temple. Et c'est ce que nous donne à entendre le reportage diffusé sur France Inter le mercredi 14 juin 1967, consacré aux célébrations de la Pentecôte juive, mais il ne fait aucune mention des 130 maisons évacuées et détruites.
Israël fête aujourd'hui la Pentecôte juive, qui commémore le jour où Moïse reçut les tables de la loi sur le mont Sinaï. Pour la première fois cette année, le drapeau israélien a été hissé sur le mont Sinaï. Hier soir, un millier d'Israéliens ont prié pour la première fois devant le mur des Lamentations, dans la partie de Jérusalem qui appartenait à la Jordanie avant la guerre. De Jérusalem, nos envoyés spéciaux, Jacques Gara, André Semam.
Il était 3 heures ce matin quand les premiers Israéliens se rassemblaient à Jérusalem au pied du mont Sion. À 5 heures, les premiers entraient dans la vieille ville, dans la ville sainte, la ville qui leur était interdite depuis 19 siècles. La prophétie allait se réaliser, elle se réalisait, on vivait l'histoire sur une terre d'histoire. Les premiers à entrer étaient les Hassidim, ces juifs de stricte obédience qui ne connaissent que l'obéissance sans concession à la loi remise au peuple juif sur le mont Sinaï par Moïse. La fête de la Pentecôte aujourd'hui célèbre justement la remise de cette loi de la Torah au peuple élu. On est venu de Tel Aviv, de Haïfa, de Bercheda, des kibbutz et des villes. Il est 14h ici et déjà 150 000 ou 200 000 personnes peut-être sont passées. Ce soir, il y en aura le double. Devant le mur, on prie.
95% des gens aujourd'hui qui se rendent sur l'esplanade du mur occidental, non seulement ils ne voient rien, mais ils ne savent pas qu'il y avait un quartier des Maghrébins à cet endroit-là. Il n'y a rien, il n'y a aucun signe, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de témoignage archéologique visible, il n'y a strictement rien. Il faut voir d'anciennes photographies, ou alors il faut s'arrêter dans la Zaouïa des Maghrébins, dans l'escalier qui est à proximité, mais il n'y a pas de raison de rentrer dans cette maison plutôt que dans une autre. On pourrait dire qu'il y a des traces vivantes et puis il y a des traces mortes, quoi. Il y a des traces mortes, celles qu'affectionnent finalement le plus souvent les historiens, c'est-à-dire les traces de papier, les archives. Alors les traces vivantes, c'est les personnes vivantes, c'est les témoins qu'on peut encore rencontrer. Donc il y a des gens qui sont encore vivants, qui ont vécu dans le quartier maghrébin avant 1967, et qui peuvent nous raconter le club de boxe, le club de foot, les écoles, la boulangerie, le coiffeur, voilà, qui peuvent nous décrire le quartier, la vie de quartier. Il reste quelques traces fugaces, c'est la toponymie. Quand les touristes vont aujourd'hui à Jérusalem et montent sur l'esplanade des mosquées par l'entrée qui leur est réservée, ils passent par la porte des Maghrébins. Et évidemment, ce toponyme est directement relié à l'histoire du quartier.
الزوار فيها أيوة زاوية نستقبل الزوار يأكل الزوار يناموا الزوار فيها.
Le bâtiment où on se trouve maintenant c'était à Zawiya pour accueillir les pèlerins. Il n'y avait pas que ce Zawiya là, il y avait encore dans les quartiers avant qu'ils soient détruits, il y avait trois Zawiya qui existaient aussi.
البيت هذا بعد ما انهدم الحي وهذا طبعا احنا كنا اولاد صغار وخفنا من الحرب طبعا والكبار يعني عادي بالنسبه لهم جينا هربنا هون
cette maison là c'est l'histoire de ma vie pendant la destruction du quartier on s'est réfugié ici et on a resté pour avec la famille ici mais ici la maison avant c'était pas une maison comme vous voyez maintenant c'était une sébile sébile ça veut dire que les gens venaient ici chercher de l'eau dans ce coin là il y avait une source d'eau et dans l'autre coin aussi
كانوا في مكة والعادي عند المسلمين بيخلص من مكة لازم يجي على هون يزور ويشوف القدس.
Mes grands-parents, ils sont partis faire leur pèlerinage à la Mecque. Et l'habitude est, chez les musulmans, après le pèlerinage, il faut venir visiter Jérusalem pour compléter leur pèlerinage.
بالحي اجوا على الحي فكان في كثير بيوت فاضيه قعدوا في بيت من البيوت وما قدروش يعني يرجعوا على بلادهم ضلوا قاعدين دفعوا حقه يعني
Ils sont venus ici dans le quartier maghrébin. Il y avait beaucoup de maisons vides ici. C'était quartier pour les visiteurs et tout ça qui venaient de Maroc. Et ils ont pris une maison et ils s'installaient ici.
Mon
père, il était né ici en 1907. Il était élevé comme un orphelin avec ses tantes.
Il était orphelin. كان يحب شغلته بس ما كانش يتدخل باشياء ثانيه
Mon père il aimait bien son travail et il travaillait dans les bâtiments de construction et de maçonnerie et il fréquentait pas trop les gens et il aimait bien son travail il restait dans son travail
احنا من يوم ما جينا وسكننا هون هذه قصه الزوار والهذه انتهت لانه صار كل واحد بده ياخذ له
J'ai quelques souvenirs ici quand on était petit On venait ici dans le Zawiya et les grands ici qui s'occupaient de la maison, ils nous donnaient des paniers avec de la nourriture et ils nous demandaient d'aller donner ça à telle personne ou à telle personne. Et ça, c'est le souvenir que j'ai. Mais après la guerre de 67, ça n'existait plus tout ça. Après la guerre, on est venu ici s'installer. Chaque famille l'a pris à un coin pour vivre et rester.
Avant de se quitter, Abou Mardi me propose de me montrer où se trouvait la maison de son enfance. C'est à quelques mètres de la Zawiya où il m'a reçu. À travers les grilles de protection de l'esplanade du mur des lamentations, il me montre l'emplacement, juste au centre du quartier des Maghrébins, aujourd'hui disparu. Évacués en une seule nuit, les habitants ont été dispersés. Et c'est à une demi-heure de voiture de Jérusalem-Est que je vais découvrir l'une des figures les plus connues des Maghrébins de Jérusalem. Il s'agit du champion de boxe poids-plume 1954, Mahmoud El Maslouhi, dit Abou Marwan.
Je suis né en 1933. Je suis né dans le quartier maghrébin. Et mon père il est venu de Marrakech pour Jérusalem. Mon père il est arrivé à Jérusalem parce que mon père il était un des hommes qui faisait le dawa, ça veut dire que ils essayaient d'expliquer aux jeunes l'islam et les règles de l'islam. Et de cette constance, il est venu à Jérusalem parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'islam. Il est venu à Jérusalem pour commencer à travailler là-bas et expliquer aux jeunes.
وكان هو اللي يفتح الابواب ويسكر الابواب الاقصى كلها 50 سنه
Mon père, quand il était enseignant à l'école coranique, le ministère de l'Awqaf, ils l'ont choisi pour lui donner les clés de la mosquée Al-Aqsa, la grande mosquée, et pour ouvrir les portes et fermer les portes. Et il a fait ça pendant 50 ans.
On a تعرف كنا مش هذاك المستوى فقر يعني مش عايشين يعني عايشين عادي.
On n'était pas vraiment des gens très riches. Mes parents travaillaient normalement. On avait une petite maison et on vivait on peut dire qu'on était une classe moyenne.
Donc il faisait l'école coranique pour les enfants du quartier et vous suiviez vous-même l'enseignement de votre père ?
Mishiktir. مرات أمام يعني أنا كنت ملتزم في العبادة بدين يعني أصلي وخمس أوقات تمام ولكن ما كنتش ملتزم.
Non, j'étais pas trop dans ces cours de religion, mais j'étais quelqu'un de respectueux. Et je priais, je faisais tout ce que mon père me demandait, mais j'assistais pas trop à ces cours.
Alors vous faisiez quoi vous ?
عادي مجتمع.
Mon père, il n'était pas exigeant. Si j'assiste, ben, il était content. J'écoutais et tout ça. Mais moi, j'avais un sport à pratiquer. Je faisais le boxe. Et j'aimais bien assister à mes cours de boxe et tout ça. Mais il ne m'engueulait pas si je ne suis pas dans ces cours, en fait. On avait plusieurs équipes. Il y avait l'équipe de Bing Bong, la table de tennis. On était fort dans ce genre de sport. C'était le sport qui, à ce moment-là, les jeunes aimaient bien. Mais on était vraiment les meilleurs dans les boxes. Notre club de boxe était le premier club de Jérusalem.
Comment s'appelait votre club de boxe ?
Nadi Al-Khairi Al-Jariya Al-Maghribiya.
C'était le club de boxe de la communauté maghrébine.
Ana tariban kunt rais al-nadi. Kunt aqwa fariq fi al-Quds.
On était les meilleurs. Moi, j'étais le responsable de cette équipe. Je me rappelle qu'on était vraiment les meilleures équipes de Jérusalem.
Abyad wa azra. Le pantalon azra wa al-qamis abyad.
On avait des couleurs bleues et blancs. Le short c'était bleu et le t-shirt c'était en blanc.
كنت دائما نشيط. احنا بتعرف ان صلاه الصبح بنصلي لازم نصلي الصبحيه. بعد صلاه الصبح عندي لعب تقريبا ساعه ونص.
J'aimais bien après la prière de le soulever du soleil. C'était à ce moment-là, on était en forme. On allait s'entraîner pendant une heure et demie, à sauter à la corde, et s'entraîner avec le sac de sable. Et puis après, on allait à l'école après, pour commencer l'école. J'avais entre 16 ans et 17 ans.
وزن الريشه خفيف يعني انا كنت وزن خفيف وزن متوسط.
Catégorie, c'était le poids plume. C'était 61 kilos, je n'étais pas trop grand.
Mais nerveux ?
Ah oui.
Dans mes souvenirs, c'est entre 10 ans de sport, j'étais vraiment bien, j'étais fort. Ouais, je me rappelle que j'étais très fort. J'ai eu beaucoup de titres des championnats de boxe dans plusieurs villes comme Al-Khalil, Hebron, à Yafa, en Jordanie aussi. Et je me rappelle que j'avais plusieurs titres et c'était à peu près 7 fois que j'ai gagné.
Champion poids plume dans les années 53-54, Abou Marwan a l'œil qui frise lorsqu'il raconte ses exploits devant sa femme. À l'époque, les compétitions de boxe l'emmènent à l'étranger et surtout en Jordanie. C'est l'occasion pour Abou Marwan, alors jeune homme, de sortir de l'enclave qu'est le quartier des Maghrébins. Il a tout juste 20 ans.
Le meilleur souvenir, c'est quand j'ai gagné en Jordanie. Et surtout, j'étais vraiment dans ce club de boxe, j'étais les meilleurs. Et ça me faisait plaisir quand j'ai gagné dans les autres clubs autour des autres villes ici en Palestine, quand on faisait des matchs et tout ça, ça me faisait plaisir de gagner et revenir avec la victoire à mon club.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Nous sommes à Jérusalem, dans le salon d'une star locale des années 50, champion poids-plume de boxe. Un enfant de la petite colonie maghrébine de Jérusalem. Abou Marwan a grandi dans le quartier des Maghrébins, détruit en 1967 par les Israéliens lorsqu'ils prennent possession de Jérusalem-Est. Ils ouvrent ainsi une grande esplanade de prière devant le mur des Lamentations, qu'ils appellent mur occidental, tandis que les musulmans l'appellent le mur al Bourak. Cet accès au mur, les Juifs en étaient privés depuis la guerre israélo-arabe de 1948. Et au sortir de la guerre, notre champion, Abou Marwan, grandit dans le quartier des Maghrébins. Il a alors 15 ans.
Franchement, je vous le dis, j'avais pas beaucoup d'espoir parce qu'on venait de sortir d'une guerre et je voyais pas qu'il y aurait un avenir après une guerre et tout ça. Mon père aussi, sa situation, elle était pas terrible pour que je puisse faire mes études ou continuer dans ma vie parce qu'il gagnait un peu d'argent avec ce travail qu'il faisait. J'avais pas trop d'avenir et une pensée pour l'avenir en fait.
Alors, vous avez fait comment ?
يعني عشان ما عنديش تعليم قوي كتير فهمت علي اشتغلت في البناء صرت درجة كويسة في البناء
j'ai commencé à travailler dans la construction, j'ai appris le métier de bâtir des maisons, de travailler des maçonnets. Comme j'ai pas fini mes études et j'avais pas le moyen de continuer, j'ai dû de travailler. Quand j'ai commencé à être bien dans ce métier, ben ma situation s'améliorait un petit peu.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous vivez toujours dans le quartier des Maghrébins ? On est en quelle année lorsque vous commencez vraiment à travailler en tant que maçon ?
À ce moment-là, j'avais 17-18 ans. C'était toujours dans les quartiers maghrébins. On vivait dans notre maison et j'essayais de travailler aussi dans ma maison, de la réparer et de faire l'entretien de ma maison.
Parce que tout ce qui concernait justement le quartier, les maisons, les écoles, les petites mosquées. C'était vous, entre vous, qui vous occupiez du quartier. Il y avait un peu d'argent qui venait du Maroc, c'est ça? Comment ça se passait?
Je ne
peux pas vous cacher ça. Jusqu'à maintenant, on reçoit des aides du Maroc. Dans le quartier où je vivais, il y avait beaucoup des Algériens et des Tunisiens qui recevaient des aides aussi.
Le Maroc maghrébin.
باسم
الحكومي كان السعد الوائف يعني تعطينا مساعدات كانت يعني تقريبا لغاية الآن بتدفع كانت المغرب للقدس.
Les finances qui venaient, c'était directement du gouvernement du Maroc. C'était pas de la communauté religieuse du Maroc ou des autres pays. C'était directement du gouvernement du Maroc.
Alors, on est dans ce monde transnational.
Vincent Lemire, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem.
Où il y a une solidarité entre ces autorités musulmanes du Maghreb. Donc par exemple, la mosquée de Tlemcen en Algérie organise des quêtes à la sortie de la prière du vendredi. Et le produit de la quête va être reversé aux habitants du quartier maghrébin de Jérusalem. Ces aides, en fait, elles se mettent en place dans le cadre de l'Empire français au Maghreb. Donc vraisemblablement dans la deuxième moitié du 19e siècle, fin du 19e siècle. Et ces subventions maghrébines vers le quartier maghrébin de Jérusalem vont se poursuivre pratiquement jusqu'aux décolonisations, c'est-à-dire jusqu'au moment où cette région du Maghreb, les États-nations vont se mettre en place et où petit à petit la situation de ces anciens pèlerins va devenir de plus en plus incongrue par rapport au nouveau contexte et où en gros chacun doit être quelque part, si possible chez lui. Et c'est là qu'on va voir petit à petit ces subventions se tarir, à l'exception, en partie, à l'exception du Maroc. Parce que c'est vrai que le roi du Maroc a un rôle particulier vis-à-vis des populations musulmanes des lieux saints, puisque le roi du Maroc se considère comme un des protecteurs des lieux saints musulmans. Et donc, on va voir jusqu'à aujourd'hui hein, le roi du Maroc, le palais du roi, s'occuper un petit peu plus que les Algériens et que les Tunisiens de ces anciens ressortissants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces aides, elles sont en particulier mises en place par l'intermédiaire de la France. C'est ça qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que c'est la puissance coloniale française qui va en fait réactiver, redynamiser ces circuits de subventions du Maghreb vers Jérusalem. L'idée, elle est évidemment géostratégique, c'est-à-dire que la France veut se servir de ce circuit, de cette circulation, pour montrer aux populations maghrébines, et en particulier aux Algériens, et en particulier aux nationalistes algériens, que la France est capable de secourir des ressortissants algériens, y compris en dehors des frontières. Ces aides, elles sont récoltées, par exemple, en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie. Elles transitent par le Quai d'Orsay, et elles redescendent vers le consulat de France à Jérusalem, et elles rejoignent le quartier maghrébin de Jérusalem. Alors, en 1956, la Tunisie et le Maroc deviennent indépendants, et on voit que presque immédiatement, hein, les aides se terminent. En tout cas, elles ne passent plus par la France, évidemment. Et puis, dans le cas de l'Algérie, ça va continuer jusqu'en 1959-1960. On est en pleine guerre. Et en fait, le soft power, ce côté diplomatie culturelle, diplomatie d'influence, n'a plus vraiment lieu d'être. Donc, effectivement, dès la fin des années 50, ce circuit d'aide va s'arrêter. Ce dont on se rend compte, c'est que ça dure une grosse dizaine d'années, en gros, pendant les années 1950. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits pendant ces années-là. Il y a des bâtiments qui sont restaurés, il y a des maisons qui sont restaurées, qui sont rénovées. Donc c'est une période courte de l'histoire du quartier, pas très longtemps avant sa destruction, mais qui est quand même importante du point de vue même de la morphologie du quartier.
Le quartier des Maghrébins de Jérusalem, confetti de l'empire colonial français, dont l'identité maghrébine perdure malgré sa disparition. Écoutez la voix féminine de Nawal Kassem Dahaji, épouse algérienne de son Marocain de mari.
Après la libération de l'Algérie, je ne me rappelle pas qu'il y avait quelqu'un qui a quitté, mais pendant la guerre de 67, je me rappelle qu'il y avait des familles, des Algériens et des Tunisiens qui sont partis, qui ont quitté le quartier pour revenir dans leur pays d'origine. Même je me rappelle qu'ils ont signé sur leur passeport avec un cachet rouge, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus revenir vivre en Palestine.
مثل ابوي وامي ابوي مثلا اجى من مع ناس حجوا مع عمته وعيلته اجى يحجوا ضل معاهم كان عمره بيجي حوالي 5 سنين اجى على البلد هون ضل في البلد هون.
Mon papa, il est arrivé ici à l'âge de 5 ans. Il est venu avec ses tantes qui sont venues ici pour visiter Jérusalem après leur pèlerinage. Et ils ont décidé de s'installer ici et il a resté avec ses tantes ici, ici dans le quartier maghrébin.
Les créatures de l'enfance, je suis, alhamdulillah, yani, mabsouta, aïcha comme un enfant, yani, dans le cœur de l'hara. كنا يعني مثل ما تقول كتير في بنات عندنا في قلب الحارة مغربيات كذا.
J'ai vécu une enfance normale. On jouait dans les quartiers comme toutes les filles. On s'est fréquenté parce qu'il y avait beaucoup de filles d'origine maghrébine. On sortait, on rentrait.
مش بس أنا يعني جزائرية في جزائريات في تونسيات في ليبيات في مغاربة كلياتنا ما نحسش إنه هذه تونسية هذه مغربية هذه كلنا دائما مبسوطين نلعب.
Il y avait pas que des filles d'origine algérienne, il y avait des tunisiennes, il y avait des libyennes, il y avait toutes les origines des Maghreb. Ce qui était bien, c'est qu'on sentait pas que chaque fille elle vient des pays, on sentait qu'on était tous le même en fait.
كنا نلعب مثلا الحجلة نلعب إكس نلعب غماي نلحق بعضينا نلعب رياضه في قلب الحرم كل وقتنا كان لعبنا بالحرم.
Pendant presque toute la période de notre enfance, on jouait à l'intérieur de l'esplanade, à cache-cache, on courait l'une derrière l'autre. Et on passait le temps, comme toutes les filles, à jouer. Et le temps de la prière, après, on va prier et puis on recommence à jouer. Les maisons, elles étaient à 4 mètres du mur.
Qu'est-ce qu'on vous a enseigné sur ce mur en tant que petite fille maghrébine, petite fille algérienne de cette communauté maghrébine.
قلنا هذا حائط البراق يعني مثل لليهود يجوا يصلوا فيه كانوا زمان قبل سنة 48 وقبل 48 وكانت اليهود والعرب أصحاب يعني فيش فرق يجوا يصلوا ويروحوا عادي ما حدش يعني يأذيهم بالمرة.
Il nous apprenait que ce mur-là, ça appartient d'un côté, ça appartient aux Juifs. Et les Juifs venaient prier. Personne ne leur parlait. C'était un lieu saint pour les Juifs. Moi, personnellement, je ne les ai pas vus avec mes propres yeux. C'est les parents qui nous racontaient qu'avant la guerre de 48, les Juifs venaient et faisaient leurs prières. Personne ne les empêche de le faire. Mais moi, personnellement, après la guerre de 48, j'étais petite et je ne voyais pas les Juifs venir. Il disait que les Israéliens, enfin les Juifs, ils venaient déguisés en touristes après la guerre de 48. Ils venaient pour visiter comme tous les touristes et puis ils partaient. Mais venir habillé aux Juifs, ils ne venaient pas, non.
Jusqu'en 1948, les Juifs de Jérusalem et du monde entier peuvent se rendre assez facilement devant le mur occidental, même s'ils ont assez peu de place pour s'y rassembler.
L'historien Vincent Lemire, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem.
Entre 1948 et 1967, par contre, ils en sont pratiquement exclus. Les souvenirs de la femme d'Abou Marwan, c'est sans doute des visiteurs, peut-être américains, français, russes ou canadiens, enfin voilà, qui viennent d'ailleurs, qui sont juifs ou pas. Qui en tout cas font en sorte de ne pas apparaître comme juif pour visiter les lieux. Et donc, mais l'accès n'est pas interdit. Hein. Effectivement, on a énormément de témoignages. Ça reste un lieu voilà, patrimonial et sans doute que des juifs peuvent venir effectivement discrètement prier devant le mur. Mais ça reste en nombre limité parce que le périmètre était beaucoup moins large. On avait en fait une espèce de... On pourrait dire de couloir, un peu large, mais un couloir qui faisait 4 mètres de large à peu près, devant le mur occidental. Et donc les juifs pieux pouvaient s'y rendre en fait en circulant, en tribulant par les petites ruelles du quartier des Maghrébins. Le quartier des Maghrébins, c'est effectivement en fait un périmètre assez restreint, hein, c'est quelques dizaines de mètres sur quelques dizaines de mètres. Donc c'est des petites maisons, très tassées les unes sur les autres, des toutes petites ruelles. On va dire qu'il y a 2-3 personnes qui peuvent marcher de face en même temps, pas plus, et elles ne peuvent pas se croiser. Et surtout, c'est interdit pour les Israéliens qui vivent pourtant à peine 1 km de là. Le quartier des Maghrébins, situé devant le mur occidental, donc devant le sanctuaire le plus sacré du judaïsme, effectivement va cristalliser les tensions de plus en plus, et notamment au XXe siècle avec la montée en puissance du projet sioniste. À partir de la fin du XIXe siècle, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de tentatives d'achat du mur occidental par, pour le dire très vite, des organisations sionistes. Donc soit des mécènes ou des individus, c'est le cas au départ des Rothschild ou autres. Et puis petit à petit, à partir de la Première Guerre mondiale, c'est plutôt des fondations qui vont essayer de lever des souscriptions pour réunir de l'argent et tenter d'acquérir le quartier pour agrandir l'accès au mur des Lamentations. Toutes ces tentatives vont échouer. Et puis, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces tentatives, elles nourrissent quand même un projet, un discours. Et ce projet, ce discours, va lui-même nourrir, en fait, le projet de destruction qui va être activé très, très rapidement au moment de la prise de la ville en juin 1967.
Et en 1967, lors de la guerre des six jours dont l'issue victorieuse pour Israël met un point final à l'existence du quartier des Maghrébins, Abou Marwan vit toujours dans la maison familiale. Il a 34 ans.
Bien sûr, ça n'a pas commencé d'un coup. Les Israéliens, ils ont déjà fermé la route qui ramène à la Porte Neuve. Il y avait quand même des petits frottements entre les Israéliens, les Juifs et les Palestiniens. Mais tout le monde savait bien qu'il y avait quelque chose qui se prépare. Un Palestinien, s'il voit un Israélien rentrer dans notre quartier, il va être mort. Et si un Palestinien il rentre dans leur quartier, il va être mort. Alors tout le monde s'est préparé pour la guerre.
Comment vous aviez les nouvelles des combats? Comment ça se passait?
On a géré la radio.
On avait qui la radio? On écoutait tout le temps la radio. La voix des Arabes, c'était Saout al-Arab.
Comment vous vous êtes organisé au sein de la communauté maghrébine pendant ces quelques jours de guerre?
Voilà, c'est
On s'organisait parce qu'on essayait d'expliquer aux gens de ne pas rentrer dans les quartiers israéliens parce que c'est lui qui rentre, ben il va être ou tué ou prisonnier. Et on essayait de parler avec les gens, de ne pas sortir des quartiers parce que c'était très dangereux en fait. Les Jordaniens, ils n'ont pas voulu nous donner des armes. Et nous, on utilisait les anciennes armes qui se trouvaient dans des caisses et qui étaient rouillées et tout ça. Et les Jordaniens, ils ne voulaient pas donner des armes aux jeunes, en fait. Nous avions des armes un peu stockées dans les maisons, mais c'était des armes depuis les anciens temps, en fait. C'était pas des armes qui servaient à des guerres ou tout ça. Et les Jordaniens, ils nous interdit de tirer aussi sur les Israéliens, en fait.
Quel souvenir vous gardez de l'entrée des soldats israéliens dans Jérusalem? Et de quelle façon ont-ils pris votre quartier?
Ah, quand ils sont entrés en 1967, quand ils sont entrés dans la Hara, ils sont entrés
L'armée israélienne, ils sont rentrés par la porte des Maghrébins vers à peu près minuit avec leurs chars et avec leurs bulldozers. Les Israéliens, ils avaient déjà pris tous les quartiers autour des quartiers maghrébins. C'était déjà tombé avant de rentrer dans notre quartier.
جميع فلسطيني اللي جوا فيش يعني اللي جيش أردني فيش انسحب ورع الأردن وظلت الشعب الأعزل اللي ما معوش أي سلاح أي شيء مقاوم.
Apparemment, ils avaient déjà arrangé le coup avec les Jordaniens parce que l'armée jordanienne s'est retirée quelques jours avant. Ils ont laissé les habitants du quartier maghrébin sans armes, sans rien. Je ne peux pas dire qu'il a vendu, la Jordanie, il a vendu les quartiers, mais ce que je peux dire, c'est que la Jordanie, il a perdu, et l'armée jordanienne se retirait de la vieille ville, en fait.
Quel bruit vous avez entendu? Quel bruit vous gardez du souvenir de l'entrée des Israéliens dans votre quartier?
On entendait des soldats israéliens crier dans les haut-parleurs aux habitants des quartiers maghrébins de vider leur maison. Ils ont certains temps pour le vider parce que tous les quartiers il va être démoli. les bulldozers cassaient toutes les maisons. C'est lui qui est resté dans sa maison, ben, sa maison est tombée sur lui.
À Jérusalem-Est, les habitants du quartier des Maghrébins sont dispersés. Mais après la destruction de leurs 130 maisons, où vont les familles? Alors que le quartier est administré par la Jordanie. Je pose la question à l'historien Vincent Lemire.
On a certaines familles qui se réfugient dans la dernière Zaouïa qui reste en place, immédiatement voisine. D'autres familles qui partent dans des camps de réfugiés à proximité de Jérusalem, à Chouafat, d'autres familles qui se réfugient en fait dans la vieille ville, dans les quartiers immédiatement aux alentours de la vieille ville, d'autres qui partent chez des cousins ou dans de la famille en Jordanie, par exemple à Amman, et puis d'autres familles qui rentrent au pays, même si c'est assez curieux de dire comme ça, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc on a effectivement une dispersion assez rapide des anciens habitants du quartier maghrébin. Pour dire la vérité, on ne sait pas ce que font les autorités jordaniennes à ce moment-là. J'allais dire, elles ont énormément de problèmes sur les bras. Et peut-être que quelques centaines d'habitants du quartier maghrébin de Jérusalem, ce n'est pas la priorité absolue, elles ont perdu la Palestine. Donc c'est quand même un traumatisme énorme. Il y a des centaines, il y a des milliers de maisons qui sont détruites. Il y a des dizaines de milliers d'habitants sur les routes. Il y a des centaines de milliers de réfugiés qui passent le pont Allenby pour aller en Jordanie ou à Amman. Et parmi ces centaines de milliers, il y a peut-être quelques dizaines ou quelques centaines d'anciens habitants du quartier maghrébin. Voilà. Tout ça pour comprendre qu'il n'y a pas d'action spécifique tournée vers ces habitants.
Si l'histoire du quartier des Maghrébins reste à écrire à la lumière des nombreuses archives consultées par Vincent Lemire, chacune des familles maghrébines de Jérusalem perpétue la mémoire de son nom. Localement, la liste a été établie et publiée dans un petit ouvrage présenté avec fierté par Abou Marwan.
Abdelhadi
Tazi, c'est un consul du Maroc qui est venu ici et qui s'est installé ici. Et il était en même temps un historien comme Vincent. Il a écrit une petite partie dans ce livre sur le quartier maghrébin qui présente l'histoire et le nom des familles des gens qui habitaient dans le quartier. Bien sûr, tous les anciens habitants du quartier maghrébin, ils possèdent ce genre de livre, mais c'est vraiment une petite partie de les Marocains possèdent dans, que ce soit dans la vieille ville ou à l'extérieur de la vieille ville. Tout le monde a beaucoup de livres, a beaucoup de documents sur cet épisode. Dans ce livre, on voit sur la page 61 le titre de toutes les noms des maisons qui étaient détruites dans le quartier maghrébin, avec le nombre de chambres et le prix et la valeur des maisons à ce moment-là au dinar jordanien en 1967. Le nom de ma famille est écrit ici, juste dans quel bas, je ne sais pas, mais il faut chercher. J'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Voilà, c'est moi.
Mahmoud Ahmad al-Masloui, min awal al-qawaim, mawjoud fil kitab.
Mon nom est cité le premier sur la liste, Mohamed Al-Maslouhi.
Si la mémoire du quartier maghrébin est enfouie dans les souvenirs des dernières familles du quartier, cette histoire reste inconnue, inaudible, comme si elle ne pouvait être entendue en dehors de la communauté palestinienne.
Mais en fait, le quartier maghrébin de Jérusalem n'a pas d'histoire parce que son histoire n'intéresse personne. Son histoire n'est utile pour personne. Elle n'est pas utile pour les Israéliens, à l'évidence. Elle n'est pas utile pour Israël, donc elle est peu connue en Israël. elle n'est pas utile pour la cause nationale palestinienne telle qu'elle s'est dessinée aujourd'hui, parce qu'effectivement, ces maghrébins sont palestiniens jusqu'à un certain point, mais en fait assez fortement maghrébin, donc c'est assez ambigu du point de vue de la cause nationale palestinienne. Et puis, du point de vue français, c'est une histoire qui est très peu connue parce qu'elle est reliée à l'histoire coloniale française, qui est aussi très douloureuse. Donc en fait, c'est une histoire qui est douloureuse pour tout le monde. On pourrait presque dire que c'est une histoire qui est honteuse un petit peu pour tout le monde. Donc effectivement, c'est un angle mort parce que personne n'a intérêt à raconter cette histoire, à part un historien qui le fait juste, j'allais dire, par devoir. Et donc effectivement, on assiste aujourd'hui à de plus en plus de textes, de fascicules, de livres, de brochures en arabe, le plus souvent, sur l'histoire du quartier. Alors voilà, c'est plus ou moins documenté, c'est plus ou moins historique, c'est plus ou moins scientifique, mais ça existe. Et ça, à l'évidence, hein, c'est la question des générations, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu, les derniers qui ont vécu dans le quartier, ont aujourd'hui 80 ans, bientôt 90 ans, ils vont mourir, ils le savent, et donc soit ils transmettent par l'écrit, soit ce sera oublié.
Bien sûr, ces choses-là, ça doit continuer. Connaître l'histoire de ce quartier et les valeurs et les héritages des communautés marocaines, maghrébines ici, on doit tout faire passer. Toutes ces choses et tous ces documents qu'on possède, ça doit continuer aux nouvelles générations. On a décidé de créer cette association pour que la nouvelle génération des jeunes puisse reconnaître leur origine et leur famille. Et cette association s'appelle les Frères
Maghrébins.
C'est pas seulement pour les jeunes d'ici. Cette histoire-là, elle doit passer aussi pour les gens qui habitent au Maroc, au Grand Maghreb. Ils doivent savoir qu'ils ont une famille ici, ici à Jérusalem, dans la vieille ville, qu'ils avaient un quartier qui s'appelait le quartier maghrébin. Eux aussi, ils doivent venir ici visiter et voir leur famille qu'ils habitent ici, vice-versa. Nous, on doit partir là-bas pour leur expliquer toutes ces choses.
Jérusalem 67, la destruction du quartier maghrébin. C'était un épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mis en onde par Sophie Janin, avec la complicité de Marion Lefebvre. Un grand merci à Vincent Lemire, directeur du Centre de Recherche Français de Jérusalem et auteur de l'ouvrage Jérusalem, histoire d'une ville monde, aux éditions Flammarion. Tous mes remerciements également à Ashraf Chaban pour la qualité de ses traductions, ainsi qu'aux derniers habitants du quartier des Maghrébins dont j'ai pu recueillir les témoignages. N'hésitez pas à réagir sur marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur Facebook, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.